Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant « Est-ce que Jésus-Christ est mort uniquement par les Romains et les Juifs ?» Question très sérieuse où on peut facilement se tromper. Donc aujourd'hui, nous avons l'étude numéro 3 et c'est la sixième partie de « Nous allons étudier à nouveau cinq raisons pourquoi Jésus-Christ doit mourir ». C'est donc la sixième partie de « Pourquoi ?» Jésus-Christ doit mourir. Eh bien, Jésus-Christ doit mourir sixièmement pour manifester son amour pour nous. Je répète, Jésus-Christ doit mourir sixièmement pour manifester son amour pour nous. Il est dit en Éphésiens, au chapitre 5, verset 2, Jésus-Christ nous a aimés et il s'est livré lui-même à Dieu son Père pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Notez encore Éphésiens, chapitre 5, verset 25, Jésus-Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Et maintenant, notez Galates, chapitre 2, verset 20. Jésus-Christ m'a aimé et il s'est livré lui-même pour moi. Chers amis, la mort de Jésus-Christ n'est pas seulement la démonstration de l'amour de Dieu, selon Saint Jean chapitre 3 verset 16. Elle est aussi l'expression suprême de l'amour de Jésus-Christ pour tous ceux qu'ils reçoivent comme leur trésor. Les premiers témoins qui souffrirent beaucoup parce qu'ils étaient chrétiens, étaient émerveillés par ce fait. Oui, Christ m'a aimé et il s'est livré lui-même pour moi. Galates, chapitre 2, verset 20. Il s'appropriait, on peut dire, vraiment, il s'appropriait très fortement le sacrifice par lequel Jésus-Christ s'était donné lui-même. Il disait, « Il m'a aimé, il s'est livré, il s'est sacrifié pour moi. » C'est certainement ainsi que nous devons comprendre les souffrances et la mort de Jésus-Christ. Car elle me concerne, elle parle de l'amour de Jésus-Christ pour moi personnellement. C'est vraiment mon péché qui me sépare de Dieu, non seulement le péché en général. Ce sont ma dureté de cœur et ma torpeur spirituelle qui porte atteinte à la valeur de Jésus-Christ. Je suis perdu et je meurs. En matière de salut, j'ai perdu tout droit de faire appel à la justice. Il ne me reste plus qu'à implorer la pitié et la miséricorde de Dieu. Je vois alors la souffrance et la mort de Jésus-Christ, pour qui il est dit, que Jésus-Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle, selon Éphésiens. Rappelez-vous, Éphésiens chapitre 5, verset 25. Il n'y a donc pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Saint Jean, chapitre 15, verset 13. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie pour la rançon de beaucoup. Saint Matthieu, chapitre 20, verset 28. Alors je m'interroge, suis-je moi parmi ces beaucoup? Se pourrait-il que je figure parmi ses amis? Est-ce que j'appartiens vraiment à l'Église universelle de toutes les âmes qui ont accepté Jésus-Christ pour leur Sauveur et Seigneur? J'entends la réponse qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Acte, chapitre 16, verset 31. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Notez Romains, chapitre 10, verset 13. Quiconque croit en lui, en Jésus, reçoit par son saint nom le pardon des péchés. Acte, chapitre 10, verset 43. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son saint nom, elle, la parole, c'est-à-dire Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Saint Jean, chapitre 1, verset 12. Tout cela afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Oui, mon cœur chancelle et j'embrasse la beauté et la bonté de Jésus-Christ et je m'en saisis comme mon trésor. Mon cœur est alors inondé de cette précieuse réalité, à savoir l'amour de Jésus-Christ pour moi. Je peux donc dire avec les premiers témoins, oui, Jésus-Christ m'a aimé et il s'est livré lui-même pour moi. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, qu'il a payé. Jésus a payé le prix le plus élevé possible pour me donner le cadeau le plus précieux possible. Quel est donc ce cadeau, mes chers amis? C'est le cadeau pour lequel il a prié à la fin de sa vie, quand il a dit « Père, je veux que là où je suis, que tous ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. » Saint Jean, chapitre 17, verset 24. Dans les souffrances et dans la mort de Jésus-Christ, de la parole pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Saint Jean, chapitre 1, verset 14. Nous en avons vu donc assez pour nous gagner à sa cause, et oui. Mais le meilleur est encore à venir. Il est mort pour nous, c'est-à-dire pour nous le garantir, pour nous garantir la vie éternelle. Voilà ce que c'est l'amour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, sachez que vous entendez uniquement la parole de Dieu. je ne me permettrai jamais de vous raconter une théologie personnelle ou des idées personnelles. Je me base uniquement sur la parole de Dieu. Maintenant, si septièmement, Jésus doit mourir pour annuler les exigences légales contre nous. Je répète, Jésus doit mourir pour annuler les exigences légales contre nous. Il est dit dans Colossiens, notez chapitre 2, versets 13 et 14, « Vous qui étiez morts par vos offenses, il, Jésus, vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. » J'ai dit Colossiens chapitre 2, versets 13 et 14. Chers amis, quelle folie de penser que un jour nos bonnes actions compenseront nos mauvaises. Ça, c'est insensé. Et ceci pour deux raisons. Premièrement, tout simplement, ce n'est pas vrai. Même nos meilleures œuvres sont vicillées, sont ternies, parce que notre façon de les accomplir n'honore absolument pas Dieu comme il convient. Les accomplissons-nous en une joyeuse dépendance de Dieu et en vue de manifester sa suprême grandeur? Nous mettons-nous au service d'autrui comme il nous l'a ordonné, selon la force que Dieu communique, afin que en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ? Notez 1er épître de Pierre, chapitre 4, verset 11. Que répondrons-nous à la parole de Dieu qui déclare « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction profonde est péché » Romains 14, verset 23. Je pense que nous ne dirons rien, car nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit afin que toute bouche soit fermée. Romains, chapitre 3, verset 19. Nous n'aurons donc rien à dire. C'est tout simplement de la pure folie de croire que nos bonnes œuvres compenseront nos mauvaises devant Dieu. Sans la foi qui exalte Jésus-Christ, eh bien nos actions ne manifestent rien d'autre que notre rébellion. Deuxièmement, il est tout simplement stupide de placer notre confiance dans nos bonnes actions, parce que ce n'est pas ainsi que Dieu va nous sauver. Si nous sommes sauvés des conséquences de nos mauvaises actions, ce n'est pas parce qu'elles pèsent moins lourdes que nos bonnes œuvres, mais c'est parce que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, le registre céleste de nos dettes envers Dieu, a été cloué sur la croix de Jésus-Christ. Dieu a donc une méthode toute autre de sauver les pécheurs que de peser leurs actions. Il n'y a aucun espoir dans nos œuvres. qu'ils soient bonnes ou moins bonnes. Le seul espoir de salut réside dans la souffrance et dans la mort de Jésus-Christ qu'il a accompli pour toi et pour moi. Le salut ne résulte pas d'une différence possible entre les bonnes œuvres et les mauvaises accomplies au cours de notre vie. Il se trouve plutôt et uniquement dans la suppression des comptes négatifs. Écoutez bien, le compte rendu de nos actions, les mauvaises et les bonnes défectueuses, ainsi que l'indication des justes pénalités que chacun encourt, doit être effacé et non pas simplement équilibré. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a souffert et qu'il est mort. Je répète, le compte rendu de nos actions, c'est-à-dire les mauvaises et les bonnes défectueuses, ainsi que l'indication des justes pénalités que chacun encourt, doit être effacé et non pas simplement équilibré. Car c'est pour cela que Jésus-Christ a souffert et qu'il est mort. Cette annulation, elle s'est produite quand le détail de nos actions a été cloué carrément sur la croix. Rappelez-vous Colossiens chapitre 2, verset 13. Comment ce document qui nous condamnait fut-il cloué? Ce n'est pas le document lui-même qui a été cloué sur la croix, mais rappelez-vous, c'est Jésus-Christ. Jésus est venu et il est devenu le compte rendu carrément de toutes mes œuvres mauvaises et bonnes. Jésus a subi ma condamnation. Il m'a procuré un salut sur une base radicalement différente. Il est mon unique espoir. Et oui, la foi en lui, en Jésus, est mon seul chemin vers Dieu. Il n'y en a pas d'autre, ni Mohammed, ni Bouddha, ni un pape, ni un monseigneur, uniquement Jésus-Christ qui m'a amené sur le chemin vers Dieu le Père. Huitièmement, Jésus doit mourir pour servir de rançon pour beaucoup. Je répète, huitièmement, Jésus doit mourir pour servir de rançon pour beaucoup. Il est dit en Saint Marc, chapitre 10, verset 45, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie pour la rançon de beaucoup. Saint Marc, chapitre 10, verset 45. La Sainte Bible ne contient aucune trace de la pensée selon laquelle Satan aurait été payé pour relâcher les pécheurs. Lorsque Jésus est mort, eh bien Satan, il ne fut pas payé, pas du tout, mais Satan a été vaincu. Alléluia! Le Fils de Dieu s'est fait homme afin que par sa mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Notez Hébreux, chapitre 2, verset 14. Il n'y a pas eu de négociation. Quand Jésus affirme qu'il est venu pour donner sa vie comme la rançon L'important n'est pas de savoir qui a touché la rançon. Jésus, il met l'accent sur sa propre vie, comme étant le prix de notre libération, sur son libre choix de servir plutôt que d'être servi, et sur les beaucoup, oui, les beaucoup, qui bénéficieront du paiement. Si nous cherchons à savoir qui a reçu la rançon, la Sainte Bible répondrait certainement « C'est Dieu ». Elle déclare en effet que Jésus-Christ s'est livré lui-même à Dieu son Père, pour nous, pour toi, pour moi, comme une offrande. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Oh oui, Christ s'est offert lui-même sans tâche à Dieu son Père. Hébreux chapitre 9, verset 14. Il fallait donc qu'un substitut meure à notre place parce que nous avions péché contre Dieu et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. À cause de notre péché, tout le monde est reconnu coupable devant Dieu. Romains chapitre 3, verset 19. Par conséquent, la Sainte Bible affirme que lorsque Jésus-Christ s'est offert lui-même en rançon pour nous, il nous a libérés du châtiment divin. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux, pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'est pas dit en Mohammed ou en Bouddha ou dans un autre soi-disant saint. La captivité dont nous devons être libérés et finalement le jugement de Dieu. Notez bien Romains chapitre 2 verset 2 et Apocalypse chapitre 14 verset 7. Ça vaut la peine de répéter. La captivité dont nous devons être, vous et moi, libérés, elle est finalement le jugement de Dieu. Le prix de la rançon pour être délivré de la condamnation divine n'est autre que la vie de Jésus-Christ. Non pas seulement la vie qu'il a menée, mais celle qu'il a offerte en mourant pour toi et pour moi. Jésus a souvent répété à ses disciples que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes et ils le feront mourir. Saint Marc, chapitre 9, verset 31. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles Jésus aimait se désigner comme étant le Fils de l'homme, plus de 65 fois, cela se trouve dans les évangiles, et que cette expression avait le timbre de la mortalité. Les hommes peuvent donc tous mourir. Et c'est pourquoi il se revêtit, Jésus, de l'humanité. Car seul le Fils de l'homme pouvait payer la rançon, parce que le montant de celle-ci était le don d'une vie trois fois sainte. Personne ne lui a arraché sa vie. Tel est le sens des paroles qui disent en Saint Jean, chapitre 10, verset 18, Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Il n'avait nul besoin de notre service. Il était le donateur, non pas le receveur. Oui, personne, est-il dit, ne me l'ôte la vie. Mais je la donne de moi-même. Donc, il a payé le prix librement, sans y être forcé. Et cela nous ramène à son amour, car il a décidé souverainement et librement de nous secourir au prix de sa vie. Combien de pécheurs Jésus-Christ a-t-il racheté du péché? Il a déclaré de donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc, tout le monde, évidemment, et vous le comprenez, tout le monde ne sera pas racheté de la colère de Dieu, malheureusement. Mais par contre, l'offre, elle s'adresse absolument à tous. C'est à nous de prendre la décision. C'est à nous de nous humilier, c'est à nous de reconnaître que nous sommes pécheurs et perdus. Oui, c'est à nous de nous humilier et de nous mettre à genoux. Il y a donc, vous l'avez compris, un seul médiateur. Ce n'est pas un pape. Ce n'est pas Mohammed, ce n'est pas Bouddha, ni quelqu'un d'autre. Je répète, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ qui, lui, il s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6. Aucun de ceux qui accepte le prix de la rançon payée par Jésus-Christ, n'est exclu de ce salut. Neuvièmement, Jésus-Christ doit mourir. Il doit mourir pour le pardon de nos péchés. Je répète, neuvièmement, Jésus-Christ doit mourir pour le pardon de nos péchés. Il est dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, en lui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang et nous avons le pardon des péchés. La Bible dit, en Saint Matthieu chapitre 26, verset 28, ceci est mon sang. Oui, c'est le sang de Jésus-Christ, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup. Tout cela pour le pardon de tous nos péchés. Lorsque nous pardonnons une offense, une blessure, ou que nous effaçons une dette, nous n'exigeons pas un paiement pour réparation. Ce serait le contraire du pardon, avez-vous compris? Si l'auteur de l'offense paye la perte que nous avons subie, eh bien, il n'y a plus lieu de la lui demander ou de lui demander pardon, ni de lui pardonner. Pourquoi? Parce que nous avons reçu notre dû. Eh bien, sachez que le pardon, ça suppose la grâce. Si vous me blessez, la grâce, elle m'incite à ne pas donner suite. Je ne vous intenterai donc pas un procès. Je ne prendrai pas deux ou trois avocats, mais je vous pardonne. Je ne dis pas, je te pardonne, mais je n'oublierai jamais, comme le pensait une très chère sœur protestante, la grâce accorde aux coupables ce qu'ils ne méritent pas. Et c'est pourquoi, dans le mot pardon, il y a le don. Oui, le don. Pardonner, ce n'est pas prendre sa revanche, pas du tout, mais c'est de abandonner le droit à la revanche. C'est ce que Dieu fait lorsque nous plaçons notre confiance en Christ. Quiconque croit en lui, en Jésus, reçoit par son saint nom le pardon des péchés. Actes, chapitre 10, verset 43. Si nous croyons en Jésus-Christ, Dieu ne nous impute plus nos péchés. Merci Seigneur. C'est ce qu'il atteste très clairement lui-même quand il dit dans Ésaïe, chapitre 43, verset 25, « c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. » C'est Yahvé l'Éternel, Dieu notre Père, qui a dit cela. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Psaume 103, verset 12. Cela soulève donc un problème. Nous savons tous que le pardon ne suffit pas. Nous nous en rendons bien compte lorsque l'offense est énorme, comme par exemple dans le cas d'un meurtre ou d'un viol. Il y en a qui violent même des enfants. Aucune société, pas même l'univers, ne peut subsister si les juges ou Dieu déclarent simplement aux meurtriers ou aux violeurs « Regrettez-vous votre geste ? » Si vous le regrettez, c'est suffisant. Alors l'État vous pardonne. Vous êtes maintenant libre. Dans des cas comme ceux évoqués, la victime peut être animée d'un esprit de pardon, mais l'État ne peut écarter les exigences de la justice. Il en est donc ainsi de la justice de Dieu. Oui, tout péché est grave parce qu'il est dirigé contre Dieu. Notez la raison du CD numéro 1. Quand nous lui désobéissons ou que nous blasphémons contre Dieu, nous portons atteinte à sa gloire. Sa justice ne lui permet pas davantage de nous libérer que la justice humaine ne supprime la dette d'un criminel envers la société. Le tort commis à la gloire de Dieu par notre péché doit être réparé de sorte que sa justice fasse éclater encore davantage sa gloire. Et si les criminels que nous sommes doivent être libérés et pardonnés, Dieu doit démontrer de la manière la plus spectaculaire que son honneur est sauf, même si les anciens blasphémateurs sont affranchis. Et c'est donc pour cette raison que Jésus-Christ a souffert et qu'il est mort. En lui, est-il dit dans Éphésiens, chapitre 1, verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, nous avons le pardon des péchés. Le pardon ne nous coûte donc rien. Toute notre précieuse obéissance est le fruit et non pas la racine est la cause de l'obtention du pardon. Et c'est pour cela que nous parlons de grâce. Mais Jésus a dû payer ce pardon de sa propre vie. Et c'est pour cela que nous disons que justice a été rendue. Combien est précieuse la nouvelle que Dieu ne nous reproche plus nos péchés, et quelle n'est pas la grandeur de la gloire de Jésus-Christ dont le sang a permis à Dieu d'agir ainsi. Et rappelez-vous que Dieu ne dit jamais « Je te pardonne, mais jamais, jamais, je n'oublierai ce que tu as fait. » Et dixièmement, Jésus doit mourir pour poser le fondement de notre justification. Je répète, Jésus doit mourir pour poser le fondement de notre justification. Nous sommes, notez bien ce que vous allez entendre, nous sommes justifiés par son sang. Romains chapitre 5 verset 9. Ensuite, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, c'est-à-dire par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 3 verset 24. Ensuite, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, et ceci sans les œuvres de la loi. Romains chapitre 3 verset 28. Donc, rappelez-vous, nous sommes justifiés par son sang, nous sommes justifiés par sa grâce, nous sommes justifiés par la foi. Quand Dieu justifie et pardonne, il ne fait pas deux œuvres identiques. Être déclaré juste au tribunal n'est pas du tout la même chose que d'être pardonné. Le pardon suppose que je suis coupable et indique que mon crime n'est pas sanctionné. Être justifié, cela signifie que j'ai été jugé et que j'ai été trouvé innocent. Ma revendication est donc juste. J'ai eu raison. Le juge me déclare non coupable. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, me déclare non coupable. La justification est donc une décision juridique. Elle consiste à déclarer le prévenu juste. C'est un verdict. Le verdict de la justification ne rend pas la personne juste, mais elle la déclare juste. C'est pas pareil. Alors je répète, le verdict de la justification ne rend pas la personne juste, mais elle la déclare juste. Cette décision se fonde sur le fait que quelqu'un est effectivement juste. Et nous le voyons très clairement dans la réaction de la foule à l'enseignement de Jésus. Tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu. Saint Luc, chapitre 7, verset 29. Il va donc de soi qu'ils n'ont pas rendu Dieu juste, puisqu'il est déjà juste. Ils ont simplement déclaré qu'il est juste. La transformation morale qui s'opère en nous, lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, n'est donc pas la justification. La Sainte Bible, elle parle alors de sanctification. Ça, c'est le processus par lequel nous grandissons dans la grâce. La justification ne désigne pas ce mécanisme. Elle n'est d'ailleurs pas un processus, mais elle est une déclaration instantanée, elle est un verdict. Cet homme est maintenant juste, il est en règle maintenant. Devant les tribunaux humains, la façon normale d'être justifié, c'est de respecter la loi. Le jury et le juge ne peuvent alors que reconnaître ce qui est vrai de l'individu, car il a observé la loi, il le justifie. Mais devant le tribunal de Dieu, nous n'avons pas obéi à la loi. Et c'est pourquoi une justification en termes normaux est hors de question. La Sainte Bible déclare même que celui qui absout le coupable est en abomination à l'Éternel. Proverbe, chapitre 17, verset 15. Cependant, à cause de Jésus-Christ, elle déclare aussi que Dieu justifie l'impie qui, lui ou elle, compte sur sa grâce. Romains, chapitre 4, verset 5. Dieu a donc accompli ce qui semble abominable. Pourquoi ne l'est-ce pas? Ou comment l'exprime encore autrement la Sainte Bible? Comment Dieu peut-il être juste tout en justifiant celui ou celle qui a simplement la foi en Jésus? Romains, chapitre 3, verset 26. Oui, comment? Le fait que Dieu justifie les impies qui lui font confiance, cela n'a rien d'abominable pour deux raisons. La première, c'est que Jésus-Christ a versé son sang pour supprimer la culpabilité de nos crimes. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul déclare que nous sommes justifiés par son sang, Romains 5, verset 9. Ce n'est toutefois là que la suppression de la culpabilité. Cette œuvre ne nous déclare pas juste, car faire disparaître notre incapacité à observer la loi n'est pas du tout la même chose que nous déclarer de observer toute la loi. La suppression d'une mauvaise note à un examen, cela n'équivaut pas à l'obtention d'une bonne note. Si la banque, elle passe l'éponge sur toutes mes dettes que j'avais autrefois, elle ne fait pas pour autant de moi un homme riche, pas du tout. Et c'est pourquoi l'annulation de nos péchés n'est pas encore synonyme de justification. Cette annulation, elle doit intervenir. Elle est essentielle à ma justification. Mais il y a beaucoup plus. Une autre raison fait que ce n'est pas une abomination pour Dieu de justifier l'impie qui a la foi. Je répète, ce n'est pas une abomination pour Dieu de justifier l'impie qui, lui ou elle, a la foi. Et nous allons examiner cela de très près à la prochaine étude. Amen. La prochaine étude, l'étude numéro 4, ce sera la 11e raison pourquoi Dieu doit mourir. Chers amis, rappelez-vous une chose. Dieu aime tous ceux qui ont eu le courage, qui ont eu l'humilité de reconnaître qu'ils étaient des pécheurs et qu'ils avaient besoin d'être pardonnés. Qu'ils avaient besoin, de ce fait, d'accepter la main tendue de Jésus pour être sauvés et rachetés. Donc, Dieu vous aime. Et il est de mon devoir de vous aimer également. Et maintenant, là où vous êtes, auprès, au loin, je vous enlace et je vous embrasse tous et je vous dis oui, je vous aime. Soyez bénis en et par Jésus-Christ. Maintenant, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelques paroles pour votre propre encouragement, mais aussi pour votre enseignement personnel. Écoutez bien. Dans ce monde, vous aurez beaucoup d'injustices. On vous confiera tel ou tel emploi et l'on ne vous jugera propre à rien. Quelquefois la nature s'en affligera et ce sera beaucoup si vous le supportez en silence. C'est dans ces épreuves-là et une infinité d'autres semblables que d'ordinaire on reconnaît combien un vrai serviteur de Dieu sait se renoncer et se briser à tout. Il n'est presque rien qui vous fasse sentir autant le besoin de mourir à vous-même que de voir et de souffrir ce qui répugne à votre volonté, surtout lorsque on vous commande des choses inutiles ou déraisonnables, et parce que, assujetti à un supérieur, vous n'osez résister à son autorité, il vous semble dur d'être en tout conduit par un autre et de n'agir jamais selon votre propre sens. Mais pensez, cher ami, aux fruits de ses travaux, à leur prompte fin, à leur récompense trop grande, et loin de les porter avec douleur, vous y trouverez une puissante consolation, car pour avoir renoncé maintenant à quelques vaines convoitises, vous ferez éternellement votre volonté dans le ciel. Oui, là, tous vos vœux seront accomplis, tous vos désirs seront satisfaits. Là, tous les biens s'offriront à vous sans que vous ayez à craindre de les perdre. Là, votre volonté ne cessera jamais d'être unie à celle de Jésus-Christ. Vous ne souhaiterez rien hors de lui, oui, rien qui vous soit propre. Là, personne ne vous résistera, personne ne se plaindra de vous, personne ne vous suscitera de contrariété ni d'obstacle, mais tout ce qui peut être désiré étant présent à la fois, votre âme, rassasiée pleinement, n'embrassera que à peine cette immense félicité. Oui, là, Jésus-Christ donnera la gloire pour les opprobres souffertes, la joie pour les larmes et pour la dernière place, un trône, oui, sans et dans son royaume éternel. Là éclateront donc les fruits de l'obéissance. Là, il y aura le pardonné qui se réjouira de tous ses travaux et l'humble dépendance sera glorieusement couronnée. Je répète, là pour terminer, l'humble dépendance, elle sera glorieusement couronnée. Amen. Et maintenant, prions ensemble. Prions. Dieu éternel et miséricordieux, nous te rendons grâce. Nous te louons d'avoir manifesté au monde transitoire ton royaume éternel et ta divine souveraineté sur tous ceux et en tous ceux qui écoutent ta voix et qui accomplissent ta volonté. Nous te bénissons d'avoir fondé par le ministère de Jésus-Christ et du Saint-Esprit l'Église chrétienne et de l'avoir conservée pour le service de ton royaume. Tu veux qu'elle aille révéler à tous les peuples de la terre ta droite connaissance et ton merveilleux salut. Accorde donc à toute la chrétienté, et en particulier à nous et à notre Église, la joie et la force de travailler à l'extension de ton royaume parmi tous les peuples qui ne connaissent pas encore l'Évangile du Christ, en sorte que ton nom, ton saint nom et paternel soit manifesté et en tout lieu, surtout, et que les enfants de la terre te possèdent pour consolation, et oui, et pour espérance dans la vie comme dans la mort. Amen. Amen. Et maintenant, j'aimerais vous transmettre un ou deux chants d'un très lointain passé, 1960. Et bien sûr, vous comprendrez que la qualité des chants ont perdu parfois de leur netteté. Et parfois, il y a même des ratés. Alors, je m'en excuse d'avance. Essayons si ça fonctionne.
Quand Dieu est prêt, J'aimerais savoir pourquoi les yeux de mon enfant ressemblent tant aux miens. J'aimerais savoir comment les pétales de rose s'ouvrent chaque matin. J'aimerais savoir pourquoi quand on enterre un grain, il devient un épi. Comment une chenille devient en quelques heures un papillon joli. Comment tous les grands fleuves descendent à la mer sans jamais la remplir. Comment les hirondelles, sans montre ni boussole, savent qu'elles vont partir. J'aimerais savoir comment, lors des grandes marées, la mer est déchaînée. Comment ces tonnes d'eau, comme un fétu de paille, sont alors soulevées. Je sais seulement que Dieu est grand. Dieu est grand. Il tient l'univers dans sa main, oui. Pourquoi mon corps qui est si jeune vieillira lentement. J'aimerais bien savoir quel est le mécanisme de l'horloge du temps. Pourquoi la vie est née sur la petite terre au fond de l'univers. Au milieu des étoiles, elle n'est pas plus grosse qu'un simple grain de poussière. Je ne sais pas pourquoi quand le vent souffle fort, mes yeux ne le voient pas. Je ne sais pas comment se formera la glace qui craque sous mes pas. La route des nuages est toujours bien tracée pour déverser la pluie. Sans aucune distinction sur les bons, les méchants, toujours le soleil, lui. Je sais seulement que Dieu est grand. Dieu est grand. Il tient l'univers dans sa main, oui. Dieu est grand. Je sais seulement. Dieu est grand. Dieu est grand. Il tient l'univers dans sa main, oui. Dieu est grand.
Thank you. avec moi tu fous.